Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 14 août 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington et Vressa Sebulia. Tout d'abord les titres. Au Niger, le régime militaire veut poursuivre le président Bazoum pour haute trahison, selon un communiqué lu à la télévision nationale. Le régime dénonce aussi ce qu'il a appelé les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la CDAO. Mais selon la médiation religieuse nigériane, le régime militaire nigérien est ouvert à la voie diplomatique. Au Mali, l'armée récupère une base libérée par les casques bleus et objet de tension entre elle et l'ex-rébellion. Nouvelle interception de migrants sénégalais sur le littoral marocain. Des centaines de civils fuient une attaque des paramilitaires au Darfour. Le bilan des incendies à Hawaï atteint 93 morts et devrait encore augmenter. Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Koupatine. Pour l'instant, le journal. Les auteurs du coup d'État au Niger ont annoncé hier soir leur intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Cette annonce a été faite par le colonel-major Amadou Adraman, un des membres du régime, dans un communiqué lu à la télévision nationale.
En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ses échanges avec les nationaux, les chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales.
À propos du président Bazoum, le régime a appelé à, je cite, « s'interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu'il dispose encore de tous les moyens de communication ». Fin de citation. Les militaires assurent également que M. Bazoum reçoit régulièrement la visite de son médecin. Par ailleurs, les putschistes nigériens ont dénoncé hier soir ce qu'ils ont appelé les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la CDAO. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le colonel-major Amadou Adraman a affirmé que les populations nigériennes sont durement éprouvées par de telles sanctions, qui vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, de denrées alimentaires et de fournitures en courant électrique. D'autre part, le régime militaire au Niger s'est dit ouvert à une résolution de la crise par la voie diplomatique, a rapporté hier le chef d'une délégation de religieux nigérians après leur visite à Niamey. Précision de Michel Joseph.
Le général Abdurrahman Tiani a déclaré que sa porte est ouverte pour explorer la voie de la diplomatie et de la paix afin de résoudre la crise, a affirmé dans un communiqué le Cheikh Balalao à la tête de la mission de médiation avec l'accord de Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CDAO. Selon ce communiqué, le général Tiani s'est excusé de ne pas avoir accordé l'attention nécessaire à l'équipe envoyée par le président Tinubu et dirigée par l'ancien chef d'État, le général Abdel Salami Aboubakar. Le 3 août dernier, une délégation de la CDAO, menée par le général Aboubakar, avait atterri à Niamey, mais en était repartie au bout de quelques heures sans avoir pu rencontrer le général Tiani. La médiation religieuse a précisé qu'elle doit rencontrer le président Bola Tinubu pour lui rapporter la teneur de leur discussion à Niamey.
Niger toujours, 6 soldats nigériens, dont le chef de la mission et 10 terroristes ont été tués hier matin dans des combats dans la région de Tillabéri, dans la zone dite des trois frontières située entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, théâtre de nombreuses attaques djihadistes. Un autre soldat a été blessé, d'après le bilan provisoire du haut commandement de la garde nationale lu à la télévision. Les soldats nigériens qui étaient à bord de 5 véhicules ont engagé une poursuite contre des djihadistes présumés après être tombés dans une embuscade à une vingtaine de kilomètres de la ville de Sanam, dans l'ouest du pays, selon la même source.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La mission des Nations Unies au Mali a annoncé dimanche avoir anticipé son retrait d'un camp dans le nord, objet de tensions entre l'ex-rébellion Touareg et la junte en raison de l'insécurité dans la zone. Précision de Delidico.
La MINUSMA a anticipé son retrait de Ber en raison de la dégradation de la sécurité dans la zone et des risques élevés que cela fait peser sur les casques bleus, a affirmé la mission onusienne, sans précision sur la date de départ initiale et les effectifs. Le départ de Ber des casques bleus burkinabés qui l'occupaient a été programmé dans le cadre du retrait de la MINUSMA du Mali. La MINUSMA a quitté Ber. Le camp est totalement occupé par l'armée malienne, sans incident, a affirmé dimanche un haut responsable local de la sécurité. La junte n'a pas réagi. La zone de Ber est depuis quelques jours le théâtre de tensions. Vendredi dernier, 6 soldats maliens ont été tués dans une attaque djihadiste. Les affrontements sont survenus après une tentative d'incursion et des tirs de groupes terroristes contre des unités des forces armées maliennes devant être installées à Ber dans le cadre de la rétrocession des bases de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, qui s'apprête à quitter le pays d'ici la fin de l'année.
Au Soudan, des centaines de personnes ont fui Niala au Darfour Sud, une ville attaquée par les paramilitaires qui affrontent depuis 4 mois l'armée soudanaise. Le point avec Alexandrine Hologno.
Des centaines de personnes ont fui Niala, chef-lieu du Darfour Sud et deuxième ville du Soudan où des roquettes sont tombées sur des maisons. Plusieurs témoins affirment que les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo ont attaqué cette ville avec des dizaines de véhicules militaires, tandis que des centaines d'habitants fuient les tirs d'artillerie. Au début des années 2000, le général Daglo, alors à la tête des miliciens arabes Janjaweed, avait mené la politique de la terre brûlée contre des minorités ethniques au Darfour. Selon le laboratoire en recherche humanitaire de l'université américaine de Yale, au moins 27 localités ont été incendiées par les FSR et des milices arabes alliées. Le Darfour est le fief des FSR. Jusqu'ici, à El Geneina, chef-lieu du Darfour Ouest, et Khartoum ont concentré l'essentiel des combats. Des affrontements ont également eu lieu à Omdurman, la banlieue nord de Khartoum, où il y a eu des tirs d'artillerie. Depuis le 15 avril, le conflit opposant les FSR à l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan a fait au moins 3 900 morts. Un bilan très sous-estimé en raison du chaos, des tirs croisés et des communications coupées.
Une unité de surveillance du littoral marocain a intercepté samedi une embarcation transportant 130 migrants clandestins sénégalais qui s'est échouée au niveau de Dakhla au Sahara occidental. Le point avec Rosine Mounezero.
Des membres d'une unité de surveillance du littoral ont intercepté samedi au niveau de Dakhla une pirogue qui a échoué avec à son bord 130 candidats sénégalais à la migration irrégulière. L'embarcation avait pris la mer à partir de Fass Boy, près de Thiès, au Sénégal, et comptait rejoindre les îles Canaries en Espagne. Vendredi, près de 70 migrants subsahariens ont été secourus par la marine marocaine alors que leur embarcation était en difficulté au large de Tarfaya, dans le sud du royaume. Ces migrants, dont une femme et 3 mineurs, ont été ramenés à Laayoun, port du Sahara occidental. Le 8 août, les gardes-côtes marocains ont intercepté 56 candidats à l'émigration clandestine au large de Tantane, au sud du Maroc. La veille, 5 cadavres de Sénégalais ont été repêchés au large de Guerguera, au Sahara occidental, tandis que la marine marocaine a porté secours à 189 migrants dont l'embarcation avait chaviré. Cette opération porte à au moins 253 candidats à la migration débarqués sur les côtes marocaines depuis le 8 août. À la mi-juillet, au moins 13 Sénégalais ont péri dans le naufrage de leur pirogue au large du Maroc. La route migratoire des Canaries, porte d'entrée vers l'Europe par l'océan Atlantique, connaît ces dernières semaines un net regain d'activité avec un nombre croissant de morts.
Le bilan des feux de forêt à Hawaï, déjà les plus meurtriers en plus d'un siècle aux États-Unis, a atteint 93 morts. Ce bilan devrait encore augmenter, alimentant les critiques sur la gestion du drame par les autorités. Mohamed Houfa fait le point.
Aucun de nous ne connaît encore l'ampleur du désastre, a reconnu John Pelletier, chef de la police de Maui. Les flammes ont réduit en cendres la ville balnéaire de Lahaina, avalant maisons, voitures, hôtels ou commerces. Leur chaleur était si forte que les corps retrouvés sont difficiles à identifier, a expliqué M. Pelletier. Pour l'instant, seuls deux ont pu l'être. L'incendie a même fait fondre le métal, a précisé le chef de la police, appelant les proches de personnes disparues à se soumettre à un test ADN pour aider à l'identification des victimes. Les chiens renifleurs en quête de personnes portées disparues, lesquelles pourraient se compter par centaines, ont encore une immense zone à parcourir, a ajouté M. Pelletier. Nous allons aussi vite que possible, mais juste pour que vous sachiez, 3%, c'est ce qu'ont fouillé les chiens, a-t-il souligné. Face à l'étendue des dégâts, le président Joe Biden a déclaré dimanche qu'il envisageait de se rendre à Hawaï. Une enquête a été ouverte par la procureure générale sur les circonstances de l'incendie, notamment les décisions prises par les autorités.
L'armée ukrainienne affirme avoir déjoué des attaques russes de missiles et de drones sur la région d'Odessa dans la nuit de dimanche à lundi, lors desquelles 3 personnes ont été blessées. Selon l'armée de Kiev, le dortoir d'un établissement de formation ainsi qu'un magasin ont été endommagés par des débris résultant de la destruction de missiles dirigés vers le centre d'Odessa. Le nombre d'attaques en mer Noire a augmenté de part et d'autre ces dernières semaines. L'armée russe a frappé à plusieurs reprises la ville portuaire d'Odessa, mais aussi les ports fluviaux d'Ismaël et Reni, des attaques dénoncées par Kiev comme un moyen d'entraver ses exportations. Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Et bonjour Idrissa et bonjour à tous.
À la une, la Coupe du Monde féminine de football passe aux demi-finales.
Oui, et ça commence demain mardi avec l'explication Espagne-Suède. Les deux équipes vont essayer de décrocher leur première finale d'une Coupe du Monde. Le lendemain mercredi, l'un des pays hôtes, l'Australie, qui a atteint pour la première fois de son histoire ce niveau de la compétition, sera opposé à la championne d'Europe en titre, l'Angleterre, désormais favorite pour succéder aux États-Unis au palmarès. La finale aura lieu dimanche prochain.
Toujours chez les dames, la Confédération africaine de football a effectué le tirage au sort des éliminatoires de la prochaine Ligue des champions.
Et ça commence par la zone COSAFA. 8 équipes réparties en 2 groupes de 4. Dans la poule A, nous avons les Green Buffaloes de la Zambie, Double Action Lady du Botswana, Défense Force de Lesotho et Ntopia FC du Malawi. Le groupe B regroupe les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Olympique Moroni des Comores, Costa do Sol du Mozambique et Buff des Swatini. A noter qu'à l'issue du tournoi qui aura lieu à Durban en Afrique du Sud du 30 août au 8 septembre, seul le vainqueur va représenter la zone à la phase finale prévue en Côte d'Ivoire du 5 au 19 novembre prochain.
Mais en attendant, Élisée, les hommes seront sur les gazons en fin de semaine.
Tout à fait, pour jouer le tout préliminaire aller des interclubs de la CAF qui débute vendredi prochain. Et les clubs béninois engagés affûtent leurs âmes à travers des matchs amicaux. Coton FC de Ouida, hôte des Ivoiriens de la SEC d'Abidjan en Ligue des Champions, était à Conakry pour le tournoi West African Champions Cup qu'il a remporté en battant 1-0 en finale les Sierra Leonais de Borangers. À Cotonou, victoire 1-0 également de Loto Popo qui affrontait Aïma FC de Poubé au stade de l'Amitié. Le club de la Loterie Nationale qui a fini 2e du championnat sera samedi face aux Marocains du Fus de Rabat en Coupe CAF.
On se rend maintenant en Europe où certains championnats ont repris.
Notamment la Première Ligue anglaise et le champion en titre Manchester City démarre fort à Burnley sur ses 3-0. Arsenal aussi commence par une victoire 2-1 contre Nottingham Forest. Chelsea et Liverpool se sont neutralisés 1-1. En France, le Paris Saint-Germain a été accroché à domicile 0-0 par Lorient. Marseille s'en sort 2-1 face à Reims. Et puis, en Espagne, le Real Madrid a connu un début idéal à Bilbao en s'imposant 2-0. En revanche, le FC Barcelone, réduit à 10, a été contraint au nul 0-0 par Getafe.
Merci, Élise.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les citoyens suivent de près la situation de la CDAO avec sa menace d'intervention militaire au Niger, pour rétablir dans ses fonctions le président élu, Mohamed Bazoum. Pour beaucoup de Tchadiens, c'est la résultante de la politique africaine de la France. Notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar, fait le point.
Le vent d'une révolte militaire se propage en Afrique de l'Ouest. Les hommes en treillis ont pris le pouvoir au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina et maintenant au Niger. Dans tous ces pays, ils sont soutenus par les populations. Frank Nakingar, membre de l'Observatoire des droits de l'homme au Tchad, pointe du doigt la politique française en Afrique.
La France est obligée de revoir cette politique si elle veut être présente en Afrique. Au cas contraire, la situation va dégénérer. Puisque avant, il n'y avait pas de nouvelles technologies comme aujourd'hui. Maintenant, les informations se passent à l'instant T et les infos qui sont cachées depuis plus de 60 ans sont aujourd'hui à nu et la jeunesse africaine connaît parfaitement ce qui se passe. Et si la pauvreté aujourd'hui et le chômage frappent la jeunesse africaine et que l'Europe, particulièrement à travers la France, ferme ses frontières à cette jeunesse, voilà que tout le monde se noie dans la mer et qu'en Afrique, on vient piller les ressources, c'est normal que l'Afrique se réveille.
Docteur André Bondo Kankula, assistant au conseiller à l'aménagement du territoire à la primature et coordonnateur de la plateforme d'une cinquantaine de partis politiques qui soutiennent la transition au Tchad et qui rentrent d'une tournée politique à l'intérieur du pays, estime que le Tchad serait la prochaine étape.
Quand on fait des rencontres avec des groupes de femmes, des groupes de jeunes sur l'ensemble du territoire national, on peut déjà sentir qu'à au moins 85% des Tchadiens rejettent la politique française parce que la pauvreté est là, la misère est là, l'insécurité est là et tout cela est organisé par les puissances extérieures, particulièrement la France. Donc, ce qui se passe dans d'autres pays est déjà là. C'est une minorité de Tchadiens seulement qui acceptent la politique française.
Le constitutionnaliste et professeur Ahmad Mohamed Hassan pense que les positions anti-françaises qui se développent en Afrique sont l'expression de l'éveil de la conscience de la nouvelle génération africaine face aux défis de la pauvreté, la misère et de la violence.
La réaction, c'est contre les dirigeants africains qui sont en carence de gouvernance pour ne pas répondre aux intérêts de leur peuple. Et surtout que ces pays-là regorgent des richesses énormes. Alors on assimile la France comme le complice du coupable.
Beaucoup de Tchadiens estiment que ce qui se passe dans l'espace Sahel doit amener la France à revoir ses accords militaires avec les autorités tchadiennes. Réaction du professeur Ahmad Mohamed Hassan.
Il ne faut pas rêver. Pour le moment, le régime en place, tout le soutien est basé sur la France à travers sa base militaire de N'Djamena. Et ça pose un problème de revoir les accords de coopération militaire. Parce qu'il s'agit d'un pouvoir qui est dépourvu de légitimité démocratique et populaire et sociale. Alors dans ce cas-là, les bases françaises sont les éléments de protection des régimes dépourvus de toute légitimité démocratique. Et au revoir l'indépendance et la souveraineté que nous proclamons à chaque fois.
Le Tchad est considéré depuis 1970 comme le pion central du dispositif français dans le Sahel et un lieu stratégique de déploiement des troupes françaises sur le continent africain. André Kodouma Dingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En Guinée, la junte redéfinit le mode de désignation des conseils de quartier et de district. Selon un décret du président de la transition, ces responsables seront désormais nommés par les gouverneurs de région. La décision est diversement appréciée. Un reportage de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Ces Guinéens ne manquent pas de mots, chacun pour exprimer son sentiment, à l'image de ce jeune rencontré dans la banlieue de Conakry.
Ah, c'est une bonne initiative. Ça fait plusieurs années qu'on est dans la pagaille dans les quartiers. Les chefs de quartier ne jouent pas leur rôle. En général, ça ne va pas dans les quartiers dessus.
Même s'ils reconnaissent qu'il y a des problèmes au niveau de centraliser de l'administration, Ces deux enseignants s'interrogent sur les conséquences d'une telle décision.
Le fait de prendre cette décision, ça entraîne une certaine substitution. Ils n'ont pas l'intention, n'est-ce pas, de se présenter. Ils ont l'intention, n'est-ce pas, de positionner quelqu'un sur le plan, en tout cas, électoral.
Ça peut provoquer plus de conflits que de contribuer à la résolution. À cause qu'on choisisse quelqu'un qui n'est pas beaucoup aimé dans le quartier, ça peut entraîner, en tout cas, ça peut avoir des conséquences. Et aussi, juridiquement, il y a des problèmes.
Juridiquement, la loi est supérieure au décret, explique le juriste Mamoudou Dakité.
Si un décret vient contredire la loi, il y a à s'interroger sur la faisabilité ou sur l'applicabilité de ces décrets, si on veut quand même rester strictement attaché à la loi. Maintenant, l'autre question à se poser est de savoir quelle va être la suite. Est-ce qu'il va y avoir une démarche législative au niveau du CNT qui va essayer de raccorder tout ça?
Le décret a également suscité des réactions au sein de la classe politique. C'est Lou Baldé de l'UFDG pense qu'il s'agit d'une atteinte à la démocratie.
C'est un coup qui a été porté à la démocratie, mais également à la décentralisation dans notre pays. Et nous revenons de plus en plus dans les méthodes dirigistes et centralisatrices où l'essentiel des pouvoirs est concentré entre les mains d'un pouvoir exécutif où tout est pris par décret.
De son côté, le président de l'UGDD regrette le manque de consultation avant la publication du décret, mais semble marquer son approbation à la nomination des conseils de quartier et de district. PP Francis Saba.
La loi a été concoctée entre uniquement deux formations politiques à l'époque, entre l'UFDG et, n'est-ce pas, le RPG arc-en-ciel. Mais elle n'a jamais été appliquée. Et donc pour moi, si les forces vives de la nation avaient été préalablement consultées autour de la table de dialogue et que un consensus se dégage sur la nomination des chefs de quartier et de deux présidents de district, pour moi, et cela serait la meilleure démarche à assurer.
Selon la loi organique portant sur le code des collectivités, la désignation des conseils de quartier et de district se fait au prorata des résultats obtenus dans ces localités par les listes des candidats aux élections communales. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les habitants de Beni, dans le nord Kivu, se mobilisent face à l'accès à l'eau. De petites contributions sont collectées pour permettre l'installation d'un forage d'eau dans ces zones dévastées par la guerre. Le point avec notre correspondant dans la région, Zanem Netizaidi.
Les quartiers périphériques de Beni, dans le nord Kivu, accueillent un grand nombre de personnes qui fuient les violences dans la région. Ainsi, l'eau potable est rapidement devenue une denrée rare et précieuse. Mouindo Pascal, l'un des habitants, explique qu'il s'associe pour construire une borne fontaine afin de tenter de pallier cette pénurie d'eau.
En fait, oui, nous construisons des bornes. Nous envoyons des communiqués de presse pour sensibiliser les gens à cette initiative. Il y a une équipe d'hommes qui font le tour et qui collectent parfois 1000 francs congolais par ménage pour contribuer à l'achat de ciment et d'autres matériaux, par exemple.
Kakule Mouissa, autre habitant, fait savoir que grâce à cette contribution mensuelle, des forages ont déjà été mis en place et desservent leur quartier en eau potable.
Bon, une contribution na pitkana qui presque kila mwezi mwisho wa mwezi.
Ces contributions se passent presque chaque fin du mois dans les quartiers. Ces contributions sont faites pour qu'elles puissent s'y plier aux travaux d'adduction de l'eau potable. Nous qui habitons en périphérie de la ville, nous avons toujours des difficultés d'accès à l'eau. Et ces gens qui ont toujours les moyens de construire les puits ou forages privés nous demandent parfois quelques sommes d'argent par bidon. Et parfois, ça devient pesant pour nous. Alors, on préfère prendre ces initiatives une fois pour toutes pour nous assurer un bon accès à l'eau.
Kakule Pirissi, professeur d'université et expert en environnement, estime que même si la ville est entourée de plusieurs rivières, l'eau est propre à la consommation.
La ville de Beni a des difficultés à accéder
à l'eau, parce qu'après plusieurs études, les eaux de ces rivières ont été déclarées impropres à la santé. La population doit recourir au forage et de trouver une eau qui est potable.
Signalons qu'en dépit de toutes ces interventions des organisations non gouvernementales, la ville de Béni, avec ses 30 quartiers, peine à être desservie en eau potable. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique.
Hello everyone, voulez-vous mieux parler l'anglais? Retrouvez Learning English tous les soirs à partir de 21h30 CU sur VOA Afrique. Un programme entièrement en anglais qui facilite la compréhension de l'anglais parlé en vous présentant des sujets d'actualité à travers une lecture posée, des phrases et un vocabulaire bien adapté. Ne manquez pas cette immersion totale en anglais. Branchez-vous quotidiennement sur VOA Afrique à 21h30 CU, juste après English USA.
Au Cameroun, les autorités affirment que la reprise des activités économiques est effective dans les deux régions anglophones. Ce constat a été dressé lors de la 5e session du comité d'évaluation du dialogue national, un dialogue qui avait été initié pour trouver des solutions à la crise anglophone qui sévit depuis 2016. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
À Bouya, dans la région du Sud-Ouest, près de 200 acteurs de l'administration, de la société civile, du clergé et du monde des affaires ont planché sur le niveau de mise en œuvre des recommandations du dialogue national. Le Premier ministre, Joseph Dion Goûté, a présidé cette session.
Beaucoup a été fait. Nous avons vu que les industries reprennent, les plantations ont repris, l'activité a repris dans beaucoup de villes et beaucoup de zones rurales. Mais nous constatons aussi que, surtout dans certaines zones, en particulier les zones rurales, il y a encore des problèmes.
La reprise des activités concerne la Cameroon Development Corporation, CDC, basée dans la région du Sud-Ouest. C'est le deuxième plus gros employeur après l'État. Ses activités de plantation, des veillas de bananes sont en croissance. Selon la direction de la CDC, le chiffre d'affaires est passé de 3,8 milliards en 2019 à 14,850 milliards en 2022. Armstrong Vobukwame, sous-préfet de Tiko, l'une des villes où la CDC est implantée.
Les employés de la CDC travaillent et continuent à travailler. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de production de bananes. Il y a des extensions qui sont même en train d'être mises en place. Mais la sécurité reste toujours un aspect essentiel. Et primordial.
Dans ce contexte de relance, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD envisage la reprise des grands événements culturels dans les 6 départements de la région du Sud-Ouest. Walters Ayouk Tarkan, commissaire à l'éducation de l'Assemblée régionale du Sud-Ouest.
Pendant cette période de 6 ans, notre culture a connu une baisse des activités. Avec cette cérémonie, il y aura un regain des activités culturelles et aussi un regain du tourisme. Il faut attendre à un retour progressif de la population obligée d'abandonner leur village.
Mais certains ressortissants des régions anglophones sont encore moins enthousiastes et estiment que certains problèmes de fond de la crise anglophone n'ont pas encore trouvé des solutions. Docteur Nick Nguanyang, politique.
Le point de base est que si l'on crée un système dans lequel tout le monde peut se réveiller un matin et savoir où il ou elle pose ses pieds, il n'y aura aucun problème. C'est là la solution et nous avons raté cela parce qu'on ne comprend qu'est-ce qui conduit les énergies négatives dans la communauté.
À l'issue des assises de Boya, 12 propositions ont été faites au gouvernement pour un retour normal dans les deux régions anglophones. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Merci Emmanuel. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia. À la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, l'ex Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.